c'est le premier procès sur, sur le sujet. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui étaient réticents à l'organisation de ce procès, parce qu'ils avaient peur que ça éclabousse, qu'on soulève des choses et des agissements pendant cette période qui étaient inavouables, dont ils ne voulaient pas parler. Donc nous, on a dû se battre au cours de la procédure contre des freins de ces personnes-là. C'est toute la... Si vous connaissez un peu tout le discours des amoureux de la rue, qui disent c'était terrible, certes, mais les Français aussi ont souffert, etc. Quoi. Ils veulent minimiser le rôle de Vichy pendant la période. Voire certains négationnistes qui disent que Vichy a servi de bouclier, quoi, après la théorie du bouclier. Au contraire, grâce à Vichy, on a sauvé plus de juifs qu'on en a déporté, alors que c'est complètement le contraire qui s'est passé. Donc tous ces gens-là qui étaient encore en vie ont tout fait pour que le procès n'ait pas lieu. Dans le procès même, dans la procédure, il y a eu des experts, enfin des pseudo-experts historiques qui ont fait un rapport, parce que les juges à une époque ont estimé qu'il fallait un rapport pour expliquer le contexte historique, qui ont complètement minimisé le rôle de la préfecture de Bordeaux. C'est votre accès. Ça y est.
Tu l'as bipé, j'imagine, ton message. Hein.
Donc, pendant ce, dans ce procès, on a, avec ce procès, on pourrait aujourd'hui, par les résultats des enquêtes judiciaires, on pourrait montrer les implications, les vraies implications de Bordeaux et de Vichy dans le règne fasciste en Europe. Et tout ça. Est-ce que les, par exemple, si on prend les camps d'internement français installés en France, est-ce que il y a beaucoup de, est-ce que la connaissance de ces camps d'internement est répandue par, est-ce que les Français connaissent ça?
Non, c'est clair. C'est oublié, même on a été voir le camp de Mérignac, là il n'y a plus que l'hostel qui a été mise très récemment, quoi. Ça veut dire que dans la mémoire du collectif, on a oublié cette période.
Ça,
le camp d'Agalan, il n'y a pas de traces, il n'y a que le fort du Hac qui est resté, parce que c'est un monument historique qui date du Moyen-Âge. Donc. Mais le camp de Gurs, personne ne savait qu'il y avait eu un bulletin espagnol à déporter. Et ça a permis, le procès, mais ça a permis de faire la lumière là-dessus, quoi, puis sur le rôle de chaque personne de l'époque, quoi. Quand on a dans le procès des factures d'un chauffeur de taxi qui amène conduit un juif de Libourne, hein, ou quand bien il y a qui facture son taxi, bon, mais ça montre qu'à l'époque, tout un chacun a participé à sa façon à la déportation. La compagnie des cars qui envoie ses factures pour le transport des juifs de Mérignac à la gare Saint-Jean, la SNCF qui facture.
C'est des révélations sur l'organisation des déportations. Et est-ce que vous pouvez peut-être préciser qui a pris les décisions de construire ces camps? Comment ça s'est organisé la construction des camps?
Il existait avant, ils ont été aménagés simplement. Et dans les camps, il y avait une baraque au droit commun, une baraque aux résistants, une baraque aux juifs, et puis une quatrième, je pense que c'était. Mais c'était partout en France, pareil, à Lyon, c'est pareil. L'organisation dans les camps était identique.
Et est-ce qu'il y a eu des poursuites après la guerre? Par exemple, comme ça a eu en Allemagne, quand
les gardes. gardiens.
Oui, des gardiens.
Non, non, c'est le procès papin, c'est le premier procès du rôle des acteurs de Vichy sur la déportation des Juifs. Tous les autres procès qui ont eu lieu, Pétain, Laval, Bousquet, machin chose, enfin, tous étaient condamnés. Mm-hmm. Certains graciers d'ailleurs, on les jugeait pas sur le rôle sur la déportation, mais sur le rôle, sur la collaboration, sur, contre les résistants. C'est le seul procès d'un Français qui a participé, qui a contribué à la déportation. Parce que les autres procès sur la question, c'était Bordeaux 67, malgré nous, c'est-à-dire les soldats alsaciens qui étaient dans la division d'Asrèche, au Radeau-sur-Glane, puis le massacre dans le Périgord. Il y a eu Barbie, qui était un nazi, le chef de la Gestapo à Lyon, Touvier, qui était un milicien. On n'avait jamais jugé un fonctionnaire pour son rôle.
Donc on a très peu mis en évidence en fait la déportation en France, avant le procès papin.
Jamais. Officiellement jamais. Et puis c'est que très tardivement, certains historiens qui en ont parlé 15 ans après la guerre. Quoi. Mm-hmm. Et puis il y avait des contre-vérités, quoi. Si vous reprenez les manuels d'histoire de l'époque, dans les années 60, c'était des Juifs ont été arrêtés par les Allemands. On minimise complètement, on occulte complètement le corps de Vichy. Quoi. Et à tel point d'ailleurs que les acteurs de l'époque étaient persuadés d'être intouchables, quoi, puisqu'ils ont laissé toutes les archives, les preuves, les organisations. Ils ne se sont jamais doutés qu'un jour on pourrait les accuser de ça. Parce que le seul regret, c'est qu'il n'y ait que Bordeaux. Quoi. Marseille, Lyon, pareil. Et c'est clair qu'en France, donc, il y avait deux. Enfin, il y avait plusieurs zones, mais enfin les deux principales c'était les zones libres et les zones occupées. Les déportations marchaient de la même façon en zone libre et en zone occupée. C'est-à-dire que c'est l'administration française qui a fait tout le boulot. Il y a Bordeaux par exemple, il y a les Allemands qui interviennent dans la déportation. Il y en a deux ou trois, quoi. Ils sont dégradés. Dégradés qui viennent dire un tel ne doit pas déporter parce qu'il est hongrois ou un tel parce qu'il est. Pas juif, etc. Et le sale boulot, c'est la police française, l'administration française qui le fait.
Et à Bordeaux, comment ça se manifeste? Est-ce qu'on reconnaît qu'il y a un travail de,
ah ben oui,
de mémoire?
Alors, aujourd'hui, c'était. On peut, plus personne à Bordeaux peut dire qu'il ne savait pas. Et le rôle de l'administration, c'est clair. Et à travers Bordeaux, toute la France, hein, puisque c'était pareil partout. Je te souhaite la zone. Même en zone italienne, là, Nice, tout ça, il y a un convoi qui est organisé dans un camp par la police française, donc c'est sous domination italienne, hein, puisque c'était partagé une partie de la France avec les Allemands. Et c'est l'armée allemande qui. Arme à la main, arrête la police française pour libérer les Juifs. Et la police française, l'administration française proteste. Mais comme les Italiens avaient une politique, ne participaient pas à la déportation à l'époque, ils ont envoyé chier les Français. Quoi. Donc, il y a beaucoup de Juifs ont été sauvés par les gens italiens. En France. Hein.
Quelle quelle place Bordeaux a occupé dans la déportation
Oui, Bordeaux, c'était une des plus grosses communautés juives. Voilà, historiquement, à Bordeaux, il y a ce qu'on appelle les Maranes, c'est-à-dire la deuxième vague de juifs d'Espagne qui quittent l'Espagne. La première vague, c'était lorsque, en 1500, enfin, ou avant 1480, en même temps que Christophe Colomb. Ils chassent les juifs d'Espagne, donc il y en a beaucoup qui se convertissent. Alors il y a une vague qui quitte l'Espagne, une vague qui part vers plutôt la Turquie, l'Italie, l'Europe, et l'Europe du Nord, après l'Europe de l'Est. Et la deuxième vague qui était convertie, ils ont été chassés après, qu'on appelle les Maranes, et qui sont venus se réfugier principalement à Bordeaux. Il y a une très grosse communauté de juifs qui date de 1500, qui était installée à Bordeaux. Et après les vagues de juifs qui sont arrivés au 19e, au début du 20e, d'Europe de l'Est, sont partis bien plus partout en France, mais comme il y avait beaucoup de juifs à Bordeaux, ils sont venus à Bordeaux aussi. C'est comme ça que ma famille est arrivée. Et Bordeaux, c'est la deuxième ville, enfin la deuxième communauté juive de France après Paris. En nombre.
Pourrait-on dire que si la ville de Bordeaux, enfin on va dire l'administration de la ville de Bordeaux, a joué un rôle, a aidé pendant l'instruction du procès, a aidé au procès de pouvoir.
La ville, comment il s'appelle ça, pas Chirac, Chaban-Delmas, c'était contre le procès. Mm-hmm. Après, ils ont voulu déplacer le procès ailleurs qu'à Bordeaux, et c'est parce que nous on a insisté, on protestait pour que le procès ait lieu à Bordeaux, qu'il ait lieu à Bordeaux. Donc, la mairie de Bordeaux, enfin l'administration locale n'a rien fait pour favoriser le procès à Bordeaux. Mais nous, ça nous semblait complètement déplacé de faire le procès à, je sais plus, je vais le faire à Amiens, je crois.
Comme tu veux. Les deux dernières questions, il a dit non. Non, il a le droit de censure.
Oui, donc c'est une question qui se pose. Est-ce que vous attendez plus de la République française
J'ai pas compris.
Est-ce que vous attendez plus de la République française
Bien sûr, ce qu'on attend, c'est à travers le procès des crimes contre l'humanité sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a tous les autres crimes contre l'humanité. On ne peut pas reconnaître les massacres en Algérie, en Indochine, au Rwanda, ont commis la France. Et donc, malheureusement, l'Algérie n'aura jamais de procès parce qu'on considère que c'est un crime de guerre. L'Indochine, un crime de guerre. Il y a une plainte pour crime contre l'humanité en Indochine, elle a été jugée irrecevable. Le Rwanda, maintenant, c'est la Cour pénale internationale. Et quand les États ont ratifié la Cour internationale, ils avaient le droit de demander à ne pas remonter 4 ou 5 ans en arrière, c'est ce qu'a fait la France, pour ne pas être jugé sous son monde. Donc, les derniers crimes qu'a commis la France ne seront pas jugés. Ni Indochine, ni Algérie, ni Rwanda. Et donc, ce qu'on attend le plus de la République, c'est que elle soit d'abord, un, le fer de lance l'idée du monde libre pour qu'on empêche les crimes contre l'humanité, parce que malheureusement ça peut se reproduire, ou ça continue à se produire, et puis qu'on mette en place une législation internationale, parce que c'est la seule façon de contrecarrer ça, pour qu'il n'y ait plus de génocide, enfin, comme il y a eu en Bosnie, enfin, etc. Il faut qu'il y ait une prise de conscience internationale sur le rôle des démocraties, que doivent jouer les démocraties dans l'arrêt de ces crimes de génocide et crimes contre l'humanité. C'est ça qu'on peut attendre de la République aujourd'hui. Et c'est en ça que le procès n'est pas bon, mais ça permet d'être le levain de cette prise de conscience-là. Au-delà de la déportation des Juifs.
Qu'est-ce qui pourrait aider cette prise de conscience internationale? Les politiques?
Mais c'est les citoyens. Moi, je crois que malheureusement, c'est dans cette affaire-là, il faut que citoyens se lèvent et disent que il y en a marre quoi qu'on envoie des gamins, des mines contre les femmes et les enfants, parce que maintenant la guerre c'est tuer les. Enfin même pas tuer, blesser suffisamment gravement les femmes et les enfants pour empêcher les armées de se replier rapidement. Toutes ces pratiques-là doivent être. Donc il faut que d'éveiller les consciences en interne. Quand vous serez soldat, vous refusez de faire ça quand vous serez soldat. Enfin, ça se passe à ce niveau-là. Et puis au niveau international, il faut qu'il y ait la même prise de conscience. C'est ce qu'a montré le procès Papon, hein, c'est qu'un individu peut refuser d'obéir aux ordres. Quand les ordres sont des ordres iniques, quoi. Et Papon a refusé, voilà, il a refusé de désobéir, donc il s'est retrouvé dans un processus qui a fait qu'il s'est laissé entraîner dans le crime contre l'humanité. S'il avait dit stop dès le début, il aurait quitté la préfecture, il aurait quitté la résistance, il aurait refusé purement et simplement d'obéir. Ce que disait un historien, il n'y a rien de plus difficile que de faire un fonctionnaire ce qu'il ne peut pas faire. Donc, si un fonctionnaire veut ne pas, on donne un ordre d'arrestation, et puis le met dans son tiroir, il ne l'applique pas, on ne peut rien lui faire. Et certains fonctionnaires français l'ont fait. Il y a un général de Saint-Vincent, à Lyon, je crois, qui reçoit l'ordre d'aller arrêter les Juifs, et il refuse. Il reçoit le deuxième ordre, il refuse. Il n'a pas été inquiété. Il a été mis en congé. Il a continué à toucher son salaire pendant la guerre. Et après, à Perpignan, un fonctionnaire du service des questions juives qui faisait arrêter les juifs la journée. Et le soir, il allait dans les camps, il chargeait ses voitures. Il leur faisait passer la frontière espagnole. Il faisait vider tous les gens que la police avait fait arrêter, tout ça. Et il était au courant, c'est lui qui était à l'origine des listes, tout ça. Et pareil, il n'a pas été inquiété.
Est-ce qu'on peut pas être pessimiste quand on voit que les États-Unis refusent les conventions qui ont été signées sur le TPI, qu'elle l'a fait voter par le Congrès américain un acte comme quoi ses propres ressortissants américains ne pouvaient être jugés pour crimes contre l'humanité, qu'elle refuse de reconnaître. On a là une hyperpuissance qui contrôle le monde et qui, justement, refuse obstinément l'idée d'une justice internationale qui toucherait des sujets aussi délicats que ceux des crimes contre l'humanité. Dans ce cas-là.
Mais non, on peut être optimiste. Pendant la dernière guerre mondiale, personne n'a levé le petit doigt. Et aujourd'hui, tout le monde lève le doigt, sauf les États-Unis, puisque c'est la principale puissance qui a refusé de signer la Cour pénale internationale. Donc, bien sûr, on ne comprend pourquoi. Hein, parce qu'elle serait la première concernée. Quoi. Mais je crois que ça met un frein quand même aux atrocités qui peuvent être commises par les Américains. Ça implique un frein moral. Quoi. C'est ça la prise de conscience. Quoi. Donc moi je suis plutôt optimiste dans ce sens-là. Le fait qu'il y ait maintenant des journalistes qui vont filmer ce qui se passe pendant la guerre, ça interdit au bourreau de commettre des choses qu'il ferait s'il n'y avait pas de journalistes. Quoi. Enfin, il y a plein de. S'il y avait eu des journalistes dans les camps à Auschwitz, tout ça, il n'y aurait pas eu le train de.
Je me fais l'avocat du diable, mais aucun journaliste n'a le droit de rentrer en Tchétchénie.
Il y a certains endroits.
C'est bouclé, personne n'est allé en Libye depuis 30 ans. Et puis on est quand même dans une situation, il suffit de qualifier l'ennemi de terroriste dans l'après 11 septembre et tout est permis. Aucune puissance, aucune démocratie libérale ne s'insurge à partir du moment où le qualificatif de terroriste, axe du mal, pays voyou, état voyou, etc. Et à partir de là, tout le monde déchine.
Non, je suis persuadé que là on a du mal parce que les statuts de la Cour pénale internationale c'est très récent et c'est en train de se mettre en place. Et donc il y a des freins et des réticences. Mais enfin, c'est comme sur l'environnement. Quoi. Et quand elle sera mise en place, quand les États-Unis qui seront obligés de signer ça sera un frein pour le futur. Ça ne peut être qu'un frein pour le futur. Mais je suis pour qu'il y ait plus de contre-mesures. Quoi. Je suis pour qu'on bannisse de l'ONU tous les États qui agissent de façon selon ta capacité, la Libye, Tchétchénie. Si on les mettait au banc de la société internationale, on les isole et puis éventuellement on peut s'ingérer contre eux. Quoi. Mais c'est la situation aujourd'hui est meilleure qu'il y a 50 ans, ça c'est clair. C'est indiscutable. En termes de crime contre l'humanité, je crois. Alors que les moyens sont beaucoup plus importants. On pourrait exterminer beaucoup plus de monde si on voulait. Mais je ne sais pas, moi, le massacre des Arméniens, c'est plus possible aujourd'hui. Il y a encore, bien sûr. Des micro-conflits où ça se passe.
Justement, on peut exterminer plus facilement une population, mais on peut éviter encore plus. On a des moyens, vous avez des journalistes, mais enfin, pour le Rwanda, on aurait pu. Il y a des décisions qui ont été prises, on a préféré éviter d'y aller.
Je suis d'accord, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Mais ça, c'est la politique africaine de la France. Gros problème avec la France et la politique africaine.
Ça a été la même chose aux États-Unis.
Oui.
Les deux candidats, pas aux dernières présidentielles aux États-Unis, mais les précédentes, se sont félicités mutuellement de n'être pas intervenus au Rwanda. Mm. On a pu gazer en 89 les Kurdes. Saddam Hussein a pu gazer les Kurdes. Les journalistes ont fait de très jolis plans, notamment une photo extraordinaire de cette mère qui tend le bras vers. Qui était figé dans la mort, le bras tendu vers un enfant de 2 ans qui était gazé aussi.
Oui, mais enfin.
C'est une photo qui a été récompensée par de multiples prix internationaux. Ils ont été gazés quand même.
Oui, mais qu'est-ce qui serait passé s'il y avait des journalistes?
Et le journaliste est arrivé après. En Tchétchénie, on brise la colonne vertébrale des gamins de plus de 16 ans. Il n'y a aucun journaliste qui y est.
Et je n'ai pas dit que c'était terminé. J'ai dit que c'est mieux pour faire pour mieux. Et je crois que c'est ce qu'on entend parler, c'est ça le rôle de citoyen. Pour refuser tout ce qui concourt à ça. Donc pour vous, ici, localement, mais c'est refuser les blagues racistes, les blagues antisémites, ça commence par là. La fraternité, c'est le début de la fin de ces actes-là. Et puis, quand on est en fonction, quand on a la possibilité, refuser. Voilà.
C'est une question par rapport à lorsqu'on est allé à Bordeaux. Quand on a vu le mémorial et l'hôtel à côté, ça vous a fait quoi?
L'hôtel
L'hôtel qui est à la place du camp d'internement maintenant.
veut rien. Ça n'a rien fait de spécial. Je suis pas très, moi, matériel de la mémoire. Ça se passe pas sur du matériel. Ça me trouble pas davantage. C'est pas ça qui me remue, c'est quand on parle des enfants déportés, des choses comme ça. Enfin, c'est pas le même.
S'il n'y avait pas eu cette stèle au mémorial, tu serais battu pour qu'elle soit installée ? Elle a été installée en 85, on a reçu les articles de presse, la mairie d'Erignac. Oui, Emmanuel Agnac a la gentillesse d'envoyer un petit livret avec des articles de Sud-Ouest donc, de l'inauguration. Donc si ce genre de monument commémoratif n'existait pas, par exemple, est-ce que tu serais le genre à
œuvrer ? Non, c'est pas bon. Je suis contre tout ce qui est monument commémoratif.
Mais est-ce que la mémoire de l'opinion publique ne passe pas juste au...
Peut-être, je ne dis pas le contraire.
Pourtant, tu as écrit à la synagogue parce qu'il manque des noms.
Oui.
Deux fois.
C'est pas grave. Ah. Bah, c'est une liste des portées juives de Bordeaux. On a tous travaillé, on a extrait les noms enfin, de ceux qui y avaient avant. C'est vraiment compliqué à nous. Si la synagogue elle-même n'honore pas ses déportés juifs, c'est un peu scandaleux, franchement. Actuellement, j'avais compté justement qu'on y a été, il y en a 600 ou 700 noms sur 1800. Un problème. Donc. Et c'est juste à ce niveau-là. Quoi. Moi, je suis contre les cimetières juifs, je suis contre tout ce qui est communautariste, ça mérite ce poil. S'il n'y avait pas de cimetière juif, il n'y aurait pas d'attentat à un cimetière juif. S'il n'y avait pas de synagogue, de mosquée, d'église, on n'aurait pas du moins de problème. Je suis pour aucun signe, aucune religion d'ailleurs. C'est encore plus simple.
Bon.
Mais oui. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est on parle de la question juive là, par exemple. On se bat beaucoup, enfin, moi je participe à plusieurs organisations qui se battent pour les droits de l'homme, les citoyens. Il y a des gros conflits actuellement entre, par exemple, ceux qui défendent la Palestine, dont moi d'ailleurs, et puis aujourd'hui on arrive à un stade où on est. On ne peut plus en parler, quoi. C'est-à-dire que soit on est pro-palestinien et antisémite, soit on est pro-israélien et sioniste et raciste. Donc il y a un vrai problème là, dans le travail qu'on peut faire à ce niveau-là. Quoi. Et donc moi je trouve ça insupportable, parce que c'est pas parce qu'on est juif ou d'origine juive qu'on est raciste contre les Arabes, etc. Et ce qu'a montré et le procès Papon et le procès de... Enfin, parce que dans le procès Papon, on a quand même fait le procès de la bataille de Paris, c'est-à-dire les massacres d'Algériens à Paris. Et dans les témoignages, on s'est rendu compte que les premières personnes qui sauvaient les Arabes quand ils étaient poursuivis par la police dans les rues de Paris, c'était les anciens déportés. Donc il y a forcément une solidarité quelque part. Quand je vois ma famille en Israël, par exemple, ma tante qui a tout vécu en France, donc avant de partir en Israël, elle a toujours vécu dans les villages arabes, et elle a, aujourd'hui, elle a eu combien d'enfants, 5 ou 6 enfants, et qui sont maintenant âgés, etc. Et elle a adopté 2 Palestiniens. Donc, je veux dire, c'est cette dichotomie, là, ça m'insupporte. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de déconner sur des concepts qui ne sont, qui, pas des concepts. Il faut se battre contre toutes les formes de communautarisme, c'est ça le mal principal. C'est pas parce qu'on est né quelque chose qu'on a un destin. Comme pendant les guerres, on était des juifs, on était déportés. Aujourd'hui, on est des trucs, on est marqués à vie. Donc, non, c'est pas un idiot, ça. Citoyen du monde. Et puis, je crois que c'est ça le vrai combat aujourd'hui, il se situe là. Et s'il faut se battre, il faut se battre pour ça. Sinon, rentrer chez moi, j'ai une balle dans la tête. Quoi. Ça, c'est pas mon cas. C'est pour ça que moi, j'ai une vision optimiste. Et je dis que le crime contre l'humanité, aujourd'hui, il est moins grave que ce qu'il était dans le passé. Et en remontant encore le passé, l'esclavage s'est senti dans le mort. Pas loin, en tout cas.
Et dans une autre, sur trois siècles, du 16e au 18e.
Et puis, les protestants, pareil, le massacre des protestants dans la région, c'est encore. Ça existe, hein. Les familles, allez voir les familles protestantes, je ne sais pas si vous êtes dans des familles protestantes, c'est toujours présent, quoi. Sainte-Foy, Bergerac, Le Flé, ils ont ça dans leur mémoire. C'est pas, autant ça date de 250 ans, 300 ans.
Vite la toute dernière, faut pas.
Oui, donc je pense que ça a demandé maintenant, je pense que ça sera pas un jeu. Ça aurait dû être assez réalisé. Non.
C'est bon. Ok.
Moi ce qui m'intéresse, c'est vous. C'est pas moi, mes parents, mes grands-parents. Ce qui m'intéresse, c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire demain, aujourd'hui.
Aujourd'hui, on est en train de faire une interview avec vous. Je crois que c'est déjà pas mal d'essayer de s'intéresser à ce qui s'est passé. Mmh. Et par rapport à ce qu'on a fait en cours, bon, après, c'est pas la démarche de toutes les personnes, et on en est conscient. Après. Ce sera mon dernier mot personnel. Avec ce qu'on a vu à Auschwitz, c'est les dernières conversations. L'avenir, moi je suis pessimiste. Par rapport. Mais qu'on n'est pas arrivé à s'entendre là-bas, je trouve qu'on aurait pu essayer de s'écouter au moins une fois. On n'y arrive pas ici, on essaye de parler, de s'écouter, et là-bas on n'y est même pas arrivé. On a commencé à avoir chacun sa classe, chacun.
Je crois que voilà. Au sein de la classe.
Non. Au sein de la classe et des autres. Revoir le communautarisme primaire.
Primaire.
Défendre. On s'attaque à quelqu'un juste parce que il est de mon côté, même s'il a tort, je le défends. Mmh. Et c'était insupportable.
C'était une belle leçon justement sur le fait qu'il ne faut pas lâcher prise.
Ouais. Aussi, mais bon.
Ça vous a traumatisé.
Ouais, y a pas que ça.
Mais voilà, enfin moi je crois que il faut se fixer une règle de vie. Moi c'est la règle de vie que je me suis fixée. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'inacceptable, qu'on soit seul contre 100, il faut se lever et le dire. Parce que si personne ne le dit, bien, ça va autoriser. Et partout, tout ce que je fais, ça m'arrive de vivre. C'est ma façon de de pas oublier, enfin de rendre hommage aux morts de ma famille. Le peu que je revois, c'est ça. Alors si je peux transmettre ce message-là auprès des jeunes, j'en vois, je ne sais pas combien. Une tous les ans, s'il y en a deux ou trois, c'est déjà pas mal. J'ai pas de conscience de ça. Sinon, ça n'a pas de sens. Si c'est pour, comme je vois beaucoup d'anciens déportés ou d'anciens familles déportées qui, au lieu de construire quelque chose de neuf, de nouveau, répètent la haine, répètent la vengeance, répètent. Eux, ils n'ont pas compris et ça ne sera pas de. Avec eux qu'on construira quelque chose. Quelles que soient les excuses qu'ils aient quand même.